I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
Podcast. Salut, c'est Juliette Katz et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Il y a quelques mois, nous recevions Nikita Bellucci, actrice et réalisatrice porno. Et même s'il est vrai que les actrices occupent majoritairement le devant de la scène dans le X hétéro, la pornographie n'est pas qu'une histoire de femme. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Joss Le Scaff. Salut Joss.
Salut.
Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je m'appelle donc Joss Le Scaff. Alors, Le Scaff, c'est un clin d'œil à mes collègues, parce qu'à la base, j'étais scaphandrier plongeur. Et donc, entre scaphandrier, on dit plutôt des scaphs.
Ah.
Donc, Joss Le Scaff. Donc, okay. Ça fait réagir plusieurs générations de scaphandriers.
Okay.
Et je suis donc dans le porno depuis 23 ans maintenant.
Okay.
J'ai fait ma première scène en 2004. Et je suis beaucoup plus plébiscité, on va dire, sur les produits américains par rapport à ma catégorie, donc en étant acteur noir. Et j'ai découvert le marché français réellement, on va dire, avec les confinements, à la suite des confinements, où c'était plus compliqué de voyager, puisque je vis en France. C'était plus compliqué de voyager, donc j'ai un peu tourné en France et j'ai découvert le porno plus français, on va dire.
Et maintenant, t'es une resta française.
Voilà,
bon, okay.
On connaît dans la rue les livreurs de pizza et tout.
Incroyable. Alors, si tu devais décrire ta personnalité en trois mots.
Alors, je dirais...
C'est pas forcément en lien avec le boulot, hein. C'est vraiment ce qui te vient comme ça.
Bah, je dirais curieux, calme et je dirais bienveillant.
Ok. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Non.
Là, tu dis
non,
ce que
j'ai...
tu veux ?
Non, je crois pas que j'ai une expression particulière.
Ok.
À part si je parle anglais, je préviens tout le monde que je parle mal anglais.
Ok,
alors
d'accord.
Alors que je parle tout le temps en anglais.
Ouais, c'est ta manière à toi de te protéger dans ce truc-là. L'endroit où tu te sens le mieux ?
Ah bah c'est chez moi, avec ma famille.
Peu importe où chez toi. Il n'y a pas un endroit... Moi je sais que c'est dans ma chambre, j'adore être dans mon lit et tout.
Bah alors moi j'ai des enfants, donc tu vois, cette notion d'intimité, tout ça, elle est morte quoi.
Ouais.
J'ai une paire de jumeaux.
Ah ouais.
Mais non, c'est vraiment chez moi quoi.
Ouais.
Que je sois dans le jardin ou dans le salon quoi. J'ai mon petit monde et tout, ça, voilà, je suis bien.
Ok. Qu'est-ce que tes proches disent de toi ?
Que je suis fou.
Okay.
Non, parce qu'ils m'ont vu m'embarquer dans des professions à chaque fois qui me paraissaient comme une évidence. Et ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Et puis à chaque fois, j'ai toujours annoncé de la même façon, même à ma mère, quoi. Quand je me suis engagé dans l'armée, je lui dis, bon, voilà, très sérieusement, je m'engage dans l'armée. Quand j'ai fait du striptease Ship and Death, je lui ai dit très sérieusement, bon, bah, je fais du striptease.
Ouais.
Quand je me suis lancé dans la plongée, je lui ai dit très sérieusement pareil.
Ouais.
Et le porno, pareil, quoi. Donc, sur la même ligne, même ligne, mais ça part dans tous les sens, apparemment, quoi.
Ouais, donc on dit que t'es un peu fou, quoi.
Voilà, ouais.
Et ça te va ?
Ça me va, parce que moi, je trouve mon truc, quoi. Je trouve ma logique dans ce qui n'est pas logique.
Ok. Alors, Joss, je te propose d'entamer cet épisode avec notre premier sujet qui s'appelle « Le porno au corps ». Comment t'as commencé ta carrière ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est une histoire, c'est une peine de cœur. Je faisais du striptease.
Je pensais que tu étais scaphandrier avant de.
J'étais en même temps, en fait. Je faisais
d'accord.
du striptease en même temps que j'étais. Alors, j'étais engagé dans l'armée, j'ai commencé le striptease. Je me suis fait sortir.
Ok.
J'avais décidé de m'en aller et puis on m'a dit, ouais, c'est bien, va-t'en. Et en même temps, j'ai commencé à être scaphandrier et je faisais le striptease en même temps. Donc,
d'accord.
J'ai toujours eu plusieurs boulots qui chevauchaient, quoi.
Deux trucs très, très différents.
Voilà. Et toujours à l'étranger où, voilà, je trouvais mon truc, quoi. Et en fait, une peine de cœur, sorti de là comme un gamin, je me dis, bon ben, moi, plus jamais je me remets en couple, Maintenant, je faisais du striptease, donc je rencontrais beaucoup, beaucoup de femmes. Mais t'as pas le temps, tu sais, tu cours les dates, oui. Tu vas à droite, à gauche, tu commences à Paris, tu finis à Nantes, à Poitiers. Enfin, donc tu cours sans arrêt. Et au final, si t'es célibataire, c'est très possible que tu le restes, quoi. Et parce que les filles, bon, te crois pas, t'es un stripteaseur, tu dois tromper ta meuf, t'en as une qui est cachée, alors que t'en as pas. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et là, j'avais ma copine, on se sépare, grosse, grosse peine de cœur. Et là, je décide de plus jamais me remettre en couple, mais je me suis dit, par contre, maintenant, je vais baiser.
OK.
Et là, donc, quand même, à l'époque, il y avait quelques petites connexions entre les magazines de charme qu'utilisaient des stripteaseurs, des stripteaseuses. Et là, il y a le patron d'un magazine que je connaissais. C'est un ami qui me met en contact avec lui, mais bon, après, on est devenu ami. Il m'a dit, écoute, moi, je tourne mon premier porno cet été, donc viens, on fait un casting. J'arrive là, donc il y avait deux acteurs, Mike Angelo et c'était Yasmine. Ils étaient déjà bien en place, déjà très pros, quoi. Et on me dit, bah, tu te mets à côté d'eux avec le magazine en main, donc je prends le magazine et je mets le pouce en l'air comme ça. Et puis il me dit, ah non, mais tu descends le pantalon et tu bandes. Et là, je lui dis, ah merde, c'est... moi je faisais pas de naturisme, pas... je faisais du striptease, mais c'est du nu caché, quoi. Même s'il y a 400 personnes. Donc je me sens un peu con, il y avait une dizaine de personnes, je connais personne. Alors je vais dans un coin de la salle pour me branler, en fait, quoi. Alors je bande très, 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 très mou, j'arrive à côté de l'acteur et l'actrice, et puis je sers pour que c'est l'air d'être un peu monté.
Mais parce
et
que puis... quoi, t'étais stressé ou t'avais pas envie ou c'était intimidant?
Ah, mais c'était super intimidant. Ouais. C'est, je me mets tout nu dans un truc super intime, tu vois, en érection, devant plein de gens que je connaissais pas. Et je n'avais jamais fait ça.
Ça doit être particulier la première fois quand tu fais ça.
Ah ouais. Surtout que là, en plus, on me demandait de bander dans le vide. On m'a pas aidé. Il y avait Yasmine. Aujourd'hui, bon, ça va, on s'entend bien. Mais elle est... enfin, c'est pas qu'on s'entendait pas, mais par exemple, je vais pour lui faire la bise. Et elle m'a tendu la main, elle m'a serré la main. Et je fais, ah ben ouais, en même temps, on se connaît pas, quoi. Ouais. Donc, mais après, il fallait 10 minutes après, il fallait que je bande à côté de sa tête, quoi.
Ouais, c'est pas facile.
Ça fait bizarre, la transition, quoi. Ouais. Donc... final, j'arrive à bandouiller, et puis là, tout le monde s'arrête, mais c'est quoi?
Bandouiller.
Ouais, parce que c'était... Et en fait, bah voilà, tout le monde s'arrête, ils disent, mais c'est quoi cette bite? Ah, c'est le nouveau Joachim. Ah non, non, c'est pas pareil que Joachim. C'est un autre acteur noir, mais qui était là bien, bien avant moi.
D'accord. En français?
Ouais. Okay. Ouais. Ah bah c'est le Rocco Black. Ah non, c'est pire. Et puis là, il court, parce qu'il y avait d'autres réalisateurs qui étaient dans la salle. Et il s'appelait le patron, s'appelait Pascal Giraudot. Donc je dis son nom parce qu'il m'a dit toi tu vas cartonner, mais je veux pas que tu m'oublies. Donc le jour où on te demande d'où tu viens, je veux que tu dises mon nom. Voilà. Donc peut-être qu'un jour il me contactera, il me dira arrête de me citer. S'il te plaît. Mais voilà, donc j'ai été pris directement à cause de la taille et puis un peu de la rareté des acteurs noirs à ce moment-là, quoi.
D'accord.
Voilà. Et puis l'été d'après, j'étais dans un premier film où premier film, en fait, ce qui est ressorti, c'est que moi, comme je suis assez patient et j'étais assez disponible, j'avais le premier rôle, mais c'était pas volontaire. Ouais. Mais il en est ressorti que c'était le premier rôle.
Mais attends, il s'est passé un an entre
ton
premier film.
Non, il a dû se passer 3 mois.
D'accord.
3 mois.
Et justement, comment tu le vis, en fait, ce premier tournage? Est-ce que tu dis, ah, c'est cool, ça m'intéresse? C'est bizarre, je me sens pas à l'aise.
Non, il y a pas.
C'était
assez marrant. Il y avait pas eu grande réflexion parce que la première scène, donc forcément, j'étais un peu anxieux, un peu nerveux. Mes premières scènes se fait sur un bateau. C'était dans le sud, du côté du Cap d'Agde. Et en fait, il y avait des rôles bien définis, des acteurs et tout ça. Tout le monde commence à arriver sur le bateau, ça commence à baiser. Moi, je me suis pas demandé, il va y avoir un top, un machin. Ça commence vraiment de partout. Ouais. Et là, moi, je suis en train de me dire, alors, elle, c'est ma femme. Lui, c'est censé être le chauffeur. Donc, il est en train de baiser ma femme. Et donc, moi, je dois aller avec celle-ci, normalement. Ah, mais elle est prise, alors... Et là, je me suis rendu compte, mais t'es le seul à te soucier de ça.
Ouais. T'étais même foutait. Pas dans un truc à dire, ouais, c'est excitant. T'étais plutôt dans un truc à dire... Il faut que je comprenne comment ça fonctionne.
Ouais, je viens de milieux qui sont assez carrés, on va dire, avec des gens compétents, voire très compétents. Et là, d'un coup, j'arrive dans un truc où c'était folie volontaire, quoi. C'est lâchez-vous, on est là pour ça. Et donc, il a fallu que je me mette dans cet état d'esprit et tout ça. J'ai mis du temps avant de savoir m'amuser sur un tournage. Je suis très souvent à 50% dans la technique et 50% sur le sexe. Et
ça en fait... même temps, c'est ça qui fait peut-être que t'es professionnel aussi.
Je suis professionnel, mais ça diminue la performance.
Ah oui, parce que t'es trop dans la tête?
Pas trop dans la tête, trop dans la technique. C'est-à-dire que moi, j'ai le souci, quand il y a une actrice, je sais qu'on est focus sur l'actrice. quand je vois l'actrice qui se met la tête dans l'oreiller et qui flingue son maquillage, bah, je lui enlève la tête doucement, je la préviens avant de pas lutter contre moi parce que, bah, il faut qu'on voit son visage et la mettre en valeur.
Mmh.
Et donc, pendant très longtemps, j'étais plutôt axé à mettre en valeur le business d'une autre personne que le mien, en fait.
Ok. Je voulais juste revenir sur un truc. T'as créé un pornonyme.
C'est-à-dire ?
Bah, t'as créé ton nom porno ? Ou alors, c'est vraiment ton nom ?
Ah non, c'est mon nom porno.
C'est ton nom.
C'est mon nom porno. Mais j'avais déjà l'habitude avec le striptease.
Mais tu t'appelles vraiment Joss ?
Pas du tout.
Pas du tout. Ok, c'était ça la question. Pourquoi t'as pas gardé ton vrai nom ?
Alors, parce que dans le striptease, en fait, j'avais dit ma première entrée sur scène. Là, les gars qui manageaient l'équipe de striptease, ils disaient, au fait, c'est quoi ton nom de scène ? Alors, il me dit, c'est quoi ton prénom ? Je donne mon vrai prénom, je le dirai pas là.
Ok, tu veux pas le donner
Non, bah non, parce que ça, en fait, c'est simplement... c'est un conseil que je donne à pas mal d'actrices. Moi, à mon niveau, c'est pas trop grave. Mm. Mais en gros, une actrice qui se fait appeler dans la rue par son vrai prénom, elle va se retourner, elle va se dire, ah putain, on se connaît d'où ? Parce que peut être un copain d'école ou quoi.
Ouais.
Quand c'est Angela White, par exemple. Ah merde, elle existe vraiment.
Ok, je sais pas qui c'est.
Allez, c'est Angela, machin, voilà. Quand elle entend son nom de scène et qu'elle se retourne dans la rue, elle sait d'où on la connaît et elle pourra adapter la réaction.
Okay.
Et plus, on va dire, plus attentive à ce que ça parte pas n'importe comment.
Ouais. Voilà. Et alors, comment t'as créé du coup ? Donc, t'as dit, c'est quoi ton nom de scène ?
À 5 minutes de rentrer sur scène, je leur donne mon vrai prénom. Ils me disent, non, c'est pas possible ça.
Okay.
Et ils me disent, allez, Joss.
Parce que c'est eux qui t'ont nommé comme ça.
Ouais. Et puis, bon, c'était marrant. Et puis, je l'ai gardé. Parce qu'il y avait ce souvenir de ce côté quand je donne mon vrai prénom, et puis les mecs qui s'esclaffent, on dit non, ça marchera pas.
Ok, bon, bah on reste. Voilà.
Non, ce que j'ai créé, c'est le SCAF. C'est le SCAF que j'ai réellement créé.
Par rapport au SCAF, André. Et du coup, à tes débuts, qu'est-ce qui t'a. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a hyper surpris dans ce métier-là ? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, ah ok, j'imaginais pas ça comme ça ?
Ouais, la décontraction.
Okay.
Parce qu'en fait, j'avais pas les a priori d'aujourd'hui, en fait, sur le porno, tu sais, parce qu'on dit que la parole est plus libre et que c'est plus libre, mais les a priori aussi sont beaucoup plus montés, je trouve.
Mm-hmm.
Tu vois, il y a tout le monde qui s'en mêle, un peu de la religion, un peu des croyances, un peu des a priori, un peu de tout, quoi. Et à ce moment-là, il n'y avait pas tout ça. Et donc, moi, je suis arrivé en me disant, c'est un tournage. Et après, pour avoir été sur des émissions télé, sur des vrais films, des vrais tournages, enfin, ça, c'est dans le temps, mais déjà là, j'avais été surpris que ce soit si décontracté, quoi. C'est pas prise de tête. On est tous OK. Eh ben, il faut que c'est l'air fun. Et donc, on fait du fun. Et on prend vraiment le fun. Mmh. Moi, j'étais souvent en dessous. Parce que, ben, dans un petit souci technique, un petit souci de.
Souvent en dessous, c'est-à-dire ?
Eh ben, dans la performance.
D'accord.
Moi, j'ai fait beaucoup de mes premières pannes sexuelles. Il y avait minimum 20 personnes autour. Donc, Tu vois, ça t'apprend à rester humble, quoi.
Ouais,
ça t'apprend
à
rester humble, et puis tu décortiques après chaque scène. Dans ma tête, ça dure pas des heures et des jours, hein, mais peut-être des heures quand même.
Mmh.
Quand c'est vraiment mal passé. Mais dans ma tête, il y avait le débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a merdé ? Qu'est-ce qui a pas merdé ? Pourquoi ça s'est bien passé aussi, quoi. Voilà.
J'ai une question con, mais je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que t'as commencé le porno parce que t'aimes le cul, ou alors c'est pas par rapport à ça ?
Alors, j'ai commencé le porno parce que j'étais en manque de cul.
Ok.
Parce que mon ex a été très fort. J'étais fou amoureux d'elle. Et elle savait doser. Au moment où elle sentait que j'allais me barrer, elle me faisait la toupie. Enfin, elle faisait des trucs de fou, quoi. Et avant que je parte en striptease, elle disait, je vais bien le rincer, je vais bien le calmer, comme ça, elle ira pas voir ailleurs. Ça, elle connaissait pas la force. Mais, même pas, en fait, j'y allais pas, j'étais fou amoureux d'elle. Mais le truc, c'est que j'aimais beaucoup le sexe, mais j'en avais tellement pas, de toute façon, que, le porno... moi, le porno, c'était un peu le côté...
T'en consommais, toi, du porno ? Enfin, tu consommais, j'aime pas ce mot-là.
Ouais.
Tu regardais des pornos...
Ouais. Mais c'est en devenant acteur porno que j'ai réalisé que j'étais un... pas dire un puceau, mais que j'étais vraiment light, quoi.
T'avais peu d'expérience, quoi.
Peu d'idées, je savais pas renouveler l'envie.
Mmh.
Tu vois, j'avais déjà l'endurance, j'avais les proportions pour, mais j'étais, je pense que j'étais basique, je savais pas aller chercher...
L'imagination,
aller ouvrir les portes de ma partenaire.
Mmh.
C'est-à-dire que... je savais pas l'inviter à vraiment y mettre sa folie, à vraiment être
tu restais
à
dans
se
des...
faire jouir.
Tu restais dans des trucs basiques, de ce qu'on croit connaître sur la sexualité.
Ouais,
et qu'en
ouais.
fait, le porno, ça t'a un peu apporté une imagination et une ouverture sur...
Ouais, plus d'imagination, plus d'ouverture. Et dans mon cas, je trouve plus d'écoute. Avant, j'avais déjà une certaine forme d'écoute. C'était dans le sens où mes copines me disaient « Ah oui, t'es gros. » Alors moi, pendant très longtemps, je me disais « Bon, bah, elle a pas vu beaucoup de zizi, quoi. »
Ah, genre t'as un gros sexe,
ouais,
pas t'es
voilà,
gros.
Ouais. Okay. Elle en a pas vu beaucoup, donc c'est pour ça qu'elle trouve que je suis gros. Et puis, il y a eu une expérience où, effectivement, je savais qu'elle en avait vu vraiment beaucoup, et elle me disait la même chose, et là, j'ai commencé à la croire. Mais avant, j'étais persuadé que c'était juste les copines qui avaient des petits vagins, quoi. Donc j'y allais très, très, très doucement. Ça fait que j'étais sur cette base, beaucoup d'écoute, mais... pas en grande fureur, quoi.
Ouais.
Alors que quand la machine est chaude, ben, y a beaucoup d'actrices qui peuvent, vraiment, même de personnes qui peuvent encaisser bien plus que ce que je ne pensais, quoi.
Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, toi, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de découvrir ce milieu-là parce que je me connais pas assez dans la sexualité.
Non, franchement, je crois que c'était vraiment le côté pour le fun, quoi.
Ouais.
Un côté fun, jolie fille. Ouais,
oui,
c'était plus ça, quoi.
Ouais, ouais.
Une jolie fille.
Ok. Du coup, toi, très rapidement, tu as fait carrière à l'étranger, notamment aux États-Unis.
Ouais.
Et est-ce que tu sens qu'il y a une vraie différence dans la façon de travailler d'un pays à l'autre ?
Monumentale, énorme.
Ah.
Déjà, je suis arrivé aux États-Unis. J'ai tourné vraiment avec les actrices qui étaient au top de ce moment-là. Et donc, j'avais en face de moi des actrices qui étaient probablement millionnaires financièrement et qui avaient une simplicité que j'avais jamais rencontrée en France. Quoi.
Très humble.
Très humble. Et puis qui avaient vraiment compris le côté « on fait une scène ensemble ». En France, j'ai déjà, surtout à mes débuts, c'était vraiment compliqué. Je me souviens une fois, une actrice qui m'a dit... juste avant la scène, parce qu'elle était grande, en plus, il les met sur des talons, donc elle était encore plus grande, pour moi, qui fait 1m70, toi. Et juste avant la scène, elle me dit, alors toi, là, petit comme tu es, mais alors même pas en vrai, tu me touches dans la vraie vie. Hein. Mais alors, il n'y a pas moyen. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle est venue me parler pour me dire ça? Elle me le dit après, je m'en fous, mais là, juste avant la scène, ben, j'ai jamais bandé.
Bah ouais.
J'ai jamais bandé, quoi.
C'est bizarre de venir te dire ça, quand même.
Bah, c'est super con, hein, parce que ça fait une scène de merde pour elle et pour moi.
Oui, et puis plus de ça, au-delà du travail, c'est quand même pas très cool de venir dire ça à quelqu'un, au-delà du taf, quoi.
Ah ouais, et là, j'ai compris qu'il n'y avait pas des narcs dans le porno.
Puis c'est surtout qu'en plus, elle a vraiment dû faire une vraie distinction entre le avant et le pendant la scène, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que je la rebutais totalement? Je pense pas, parce qu'autrement, elle pouvait quand même dire non, je veux pas tourner avec lui. En fait, j'ai débuté en France. Premier film qui s'est quand même bien passé, même si j'étais perdu. Ça a été très, très, très fun, quoi. Il y avait une ambiance plutôt vacances, super libérée. Et après, les autres tournages, j'ai vu des tournages qui étaient plus précis et cadrés. Mais la grande mode à ce moment-là, c'était les actrices ne voulaient pas faire de scène avec des acteurs noirs parce que les gens de l'époque qui dirigeaient, les réalisateurs, les producteurs, leur disaient, si tu commences à faire des scènes avec des noirs, ta carrière, elle est foutue.
Waouh !
Ah, c'est raide, ouais, ouais, ouais.
Qui disait ça ? C'était des producteurs ?
Ah ben, c'est... tu prends les productions qui étaient déjà là il y a 20 ans, et qui sont encore là, producteurs, réalisateurs, c'était dans leur truc, c'était la façon de gérer.
Incroyable. J'aimerais bien, justement, d'ailleurs, qu'on parle un peu de racisme, parce que toi, t'en as vachement souffert, il me semble, dans le X. Et où est-ce qu'on en est concrètement à ce sujet dans le porno ?
Il y a toujours... déjà, il y a un truc, c'est que le porno, techniquement et même... dans les mœurs, ça évolue très très vite. Tu vois, là, le porno, il se discipline. Mais en fait, le porno a déjà une autodiscipline qui montait depuis très 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 longtemps.
En fait, je voulais savoir ce que toi, t'as vécu.
Moi, c'est juste ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là...
C'est déjà important, quand même.
Ouais, mais moi, je suis plus fort que ça, quoi. Moi, tu sais, en fait, tu te fais prendre de haut par des gens, ça va paraître arrogant. Mais moi, j'étais engagé dans l'armée. J'étais dans des pays en guerre. J'ai été décoré. Je suis classé comme ancien combattant. Après, je suis devenu scaphandrier plongeur. Déjà, une balade en mer, j'aime pas ça. Hein, j'ai horreur de ça. Je suis devenu scaphandrier plongeur où, au final, c'est pas d'être costaud, c'est d'être bien dans sa tête. C'est-à-dire que
bien
quand tu arrives au fond, c'est dans le noir total. Il peut y avoir des bestioles, pas des bestioles méchantes, hein, mais c'est gluant, ça bouge, t'es dans le noir avec elles. Enfin, voilà, quoi. Il faut être zen, il faut être bien avec soi-même. Et là, d'un coup, t'arrives face à des gens qui te servent, qui te mettent toutes les poubelles qu'ils ont pu accumuler pendant des mois, voire des années. Ils veulent te les servir en espérant que ça va t'atteindre. Mais ça ne peut pas m'atteindre. J'ai fait le tour du monde professionnellement dans des milieux super techniques où il faut une vraie discipline, où à des moments, tu es à la pointe du chantier qui vaut des milliards. Donc ces gens-là, ça ne peut pas m'atteindre. Ils me poussent à aller voir plus haut, en fait.
Ça t'a pas rebuté à des moments qu'on vienne parler de ta couleur de peau, enfin, des moments où tu es dans un tournage et on vient te parler de ça, où tu dis là c'est sans moi les gars, je m'en vais.
Alors ça, ça arrivait souvent, c'est quand même particulièrement en France. J'arrivais sur des tournages et puis c'était la petite blague, ah on va mettre un peu de couleur dans tout ça, machin. Alors ça c'est pas méchant, tu vois. Il y a eu moins soft. Et moi, généralement, je leur disais, bon, les gars, on commence pas comme ça, autrement, je vous appelle les petits zizi, moi. C'est à la blague, mais c'est pour montrer le côté que ça pourrait être éventuellement vexant. Mais franchement, je m'y arrête pas. Je m'y arrête pas parce que à chaque fois qu'on m'a servi du racisme et qu'on a voulu me bloquer plus de quelque part, tu sais, on me ferme une porte et à côté, j'ai ouvert un portail. Moi, je suis parti de l'armée parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas, même si l'armée française, enfin, je me sens toujours... voilà, quand je vois même des mecs en Vigipirate, je me dis, waouh, putain, on avait cet âge-là, quoi, j'étais jeune. Et je sais le degré d'engagement qu'ont les gars et les responsabilités, parce que c'est des armes à feu, des armes de guerre qu'ils ont avec eux. Et je connais la moralité globale de la plupart des militaires, sans être un grand chef et un commando ou quoi, hein, vraiment en étant simplement un fantassin. Et donc, je me sens toujours proche de tout ça, mais dans l'armée, ouais, j'ai vécu du racisme, ce qui a fait que ça m'a saoulé et j'ai voulu arrêter. Donc, j'ai arrêté.
Et là, le porno, t'es pas suffisamment saoulé pour que ça te fasse arrêter, quoi.
Non, parce que les gens en face, l'actrice qui va me dénigrer, je sais que son potentiel de carrière, il est à 5 ans, 6 ans, dans le meilleur des cas. Il y en a qui arrivent maintenant, elles arrivent à durer plus longtemps, et tant mieux d'ailleurs. Mais ça pouvait pas m'atteindre. C'est là, mais plein de choses dans ma vie m'ont démontré que quand on me ferme une porte, j'ai ouvert des portails magnifiques, quoi.
Ouais. Podcast. Justement, parce que tu parlais des femmes, si je te parle un peu de la place des femmes dans ce milieu-là, de leur image, etc.
Ouais.
Est-ce que tu dirais que la pression, elle est la même pour les hommes ou pas ?
Alors, moi, je dirais que les femmes sont plus souvent victimes de traquenards. Comme tu vois, les grands scandales qu'il y a eu, tout ça, il y en a d'autres qui sortiront, hein, c'est très probablement. Les femmes, moi, je le vois pas en tant qu'homme, parce que j'arrive, la scène va se faire. Souvent, j'arrive, les filles sont en maquillage depuis déjà une heure, deux heures. Donc, et puis, je vois pas les négociations qu'il y a avant et tout ça, c'est pas mon job, quoi. Et donc, elles vont être plus souvent victimes de traquenards plus ou moins graves. Par contre, elles ont une perspective de vraiment gagner de l'argent et de vraiment bouleverser, changer leur vie en bien, qui est 10 fois plus haute qu'un mec.
Les femmes, elles sont plus payées que les hommes dans ce milieu-là.
Largement.
Ouais. Hein.
Largement. C'est vrai que dans tout ça, tu vois, quand on entend un peu la justice populaire des plateformes du genre les Instagram, Facebook, tout ça, cette justice-là, ils voient la femme comme une victime. Mais déjà, elles sont volontaires pour venir faire du porno. Volontaires pour venir faire du porno. Et la perspective, n'importe...
Enfin, peut-être pas toutes.
Si, normalement, si.
Ouais.
Okay. Alors, il y a eu des histoires de traquenards. Mais moi, je parle... À mon niveau, de ce que j'ai vu,
de ce que je connais,
quand même, globalement, il y a moyen... L'actrice qui arrive débutante, qui se dit « Bon, moi, je veux faire ça, je veux pas faire ça, et je veux que dans 5 ans, je sois en train de faire ça ou ça », elle se donne une ligne, on va dire, éditoriale, une ligne de conduite pour pas aller faire n'importe quoi et le regretter après, parce que d'autres le feraient et ne le regrettent pas, mais elle, c'est pas son truc. Potentiellement, elle peut vraiment, vraiment s'en sortir, et quel que soit son physique.
Mais est-ce que tu... Il y a cet aspect-là, et puis aussi il y a la pression du corps, tu vois, de la performance. Est-ce que tu sens... Moi, de mon point de vue très extérieur, parce que c'est vraiment... Enfin, je ne connais pas du tout ce milieu-là.
Hein, ce n'est pas ton
domaine.
Ce n'est
pas mon domaine, et je regarde parfois du porno et tout. Parfois. De moins en moins, en vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y a une pression, qu'il y a un truc très pressurisant au niveau du corps de la femme. Tu vois, rester au top physiquement.
Est axé sur elle. Alors, il y a un truc, c'est qu'une actrice qui arrive, par exemple, dans le porno, il y en a, hein, qui arrive à 18 ans, 19 ans, 20 ans, forcément, elle va avoir une pression parce qu'elle est arrivée dans la catégorie. Tu sais, tout est catégorisé. Moi, je suis en Big Black Coke, dans l'interracial, et la fille qui arrive à 18, 19 ans, 20 ans, elle est en catégorie teen.
Ouais.
Voilà, c'est pas l'enfant, en anglais, ça, c'est pas le même, la même connotation. Et ben elle, le problème, c'est qu'elle arrive là, et puis elle est encore là 6 ans après, son corps a forcément changé, quoi. Mmh. Donc pour elle, il va y avoir une pression parce qu'il va falloir qu'elle accepte de changer de catégorie d'âge, en fait. Et puis, tu sais, t'es mis... Alors, MILF, c'est la Mother,
I'd like to fuck.
Voilà, merci. Ben, la MILF, en fait, c'est pas la femme de 40 ans. En réalité, c'est que c'est une fille qui a 25 ans, souvent.
Ah ouais?
c'est dingue. C'est super raide.
Alors, moi, qu'est-ce que je suis? J'ai 35 ans. Moi, je suis une grand-mère.
Alors, la MILF est tolérée à rester plus longtemps, quand même.
OK.
Voilà. Mais souvent, j'en vois qui changent de catégorie comme ça. Donc là, il y a cette pression-là. Après, tout est focus sur la femme. Après, si on doit parler de pression, pour moi, la plus grosse pression actuellement, c'est sur les mecs. Et personne n'en parle. Parce qu'il y a le porno éthique, tout ça. Donc, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose parce que tout ce qui va discipliner une profession, ça va calmer les ardeurs des pseudo-petites arnaques et machin. Donc, c'est très, très bien. Mais souvent, c'est très axé... quand on entend porno éthique, il y a des voix de femmes, un peu de gays pour que la catégorie soit plus représentée. Mais en fait, l'hétéro, il n'a pas tellement le droit de citer parce qu'il est vu comme un bourreau. Alors que c'est réellement le ressenti, là. Hein. Mmh. Alors qu'au final, moi, je vois les coulisses d'autres acteurs. Moi, j'en suis pas parce que je suis de notre génération, que j'ai fait mon nom à la force des bras. Et puis, voilà, quoi. Mais les mecs, ils en sont à prendre des produits qui vont les handicaper un jour.
Mmh.
Voilà, ils sont à se faire des injections dans la bite, tout ça.
Rassez.
Pour pouvoir bander, ne serait-ce que pour une pipe ou pour un... Parce que s'ils le font pas... Moi, j'arrive. J'étais là déjà, même avant, pas mal de réalisateurs maintenant. Les mecs, ils vont m'accepter comme je suis. Et surtout, moi, il y a des choses où je sais, j'ai une petite forme. Je vais dire, non, j'ai pas la forme en ce moment. Je vais pas aller sur une scène où on est 4-5 pour une fille, alors que moi, j'ai besoin d'avoir un peu de contact et que je ne vais sentir que les couilles de mes copains.
Ouais.
Parce qu'on va tous dans le même endroit, tu vois. Ouais. Ça, c'est pour le côté glamour. Petit clin d'œil.
On a l'image. Hein.
Voilà, petit clin d'œil à mes fans gays. les fans gays qui disent, mais tu fais pas de gays. J'ai dit, mais si, moi, j'ai fait plus de gays que vous, les gars. Parce que combien de fois est-ce que tu as eu autant de boules autour des tiennes,
quoi. Ouais.
Donc voilà. Donc ça, c'était la parenthèse. Mais au niveau de la pression sur les mecs, elle est silencieuse. Elle est diffuse. Elle est là depuis un moment. Mais
c'est latent, quoi.
C'est latent, ça s'aggrave, et il y a des mecs qui arrivent... Moi, je reçois sans arrêt des mecs, hein, ils me disent « Ouais, je voudrais faire du porno, peux-tu m'aiguiller, casting, tout ça ?» Alors moi, je les renvoie vers le cours que j'ai fait, où en fait, je parle de ça vraiment ouvertement, parce que c'est fermé, quoi, c'est une plateforme fermée. Vous me laissez parler comme ça, mais ailleurs, est-ce qu'on me laisserait ? Je sais pas, je suis pas sûr. Mais
En fait, moi, j'ai l'impression, d'un point de vue extérieur, que ce qui est très pressurisant pour les mecs, c'est que vous devez être bien gaulé, vous devez bander tout le temps, et que si vous bandez pas, et ben vous êtes pas performant. Enfin, c'est vu comme ça.
C'est ça. Ouais.
Et moi, vraiment, c'est parfois, c'est rare, hein, mais je peux regarder du porno et je me dis putain, mais comment ils font pour bander autant de temps, quoi ? Et comment font les meufs, tu vois, pour encaisser ? Enfin, c'est affreux de dire ce mot-là, mais il y a un truc, je trouve, qui est pressurisant sur les nanas, c'est que moi, j'avais fait il y a très longtemps une vidéo avec Anna Paulina, j'ai fait des trucs avec Lisa Del Sierra, tu vois, c'est une nana que je trouve hyper intelligente et inspirante et tout, et elles me disent toutes, mais en fait, c'est pressurisant. Le métier d'actrice porno, pour ne citer qu'elle, tu dois être dans cette performance de il faut pas qu'on voit trop ma cellulite, il faut que je baisse sur le canapé alors que je vais me faire hyper mal au dos, mais je vais faire genre, je vais prendre du plaisir. Ouais. Enfin, tu vois, il y a tout un truc quand même.
Ouais, pour ça, effectivement, sur la femme, sur le corps de la femme et son image, effectivement, moi je vois des filles qui vont avoir pris peut-être 2 kilos parce qu'elles sont arrivées dans le boulot sans ces 2 kilos-là, donc il faudrait qu'elles ressemblent à leur image de 20 ans. Ouais. Donc effectivement, il y a une pression assez balèze.
Mais tu vois, quand tu parles de porno éthique, moi j'en ai regardé très peu du porno éthique, mais je vois du coup à quoi ça ressemble. Moi je trouve ça génial parce que. Déjà, il y a un truc en plus, tu vois, qui est proposé aux gens, donc ça c'est cool. Et surtout, quand tu regardes du porno hétéro, il y a un truc où la meuf prend cher de ouf, quoi.
Alors, ça tu vois, globalement,
la meuf prend hyper cher. Elle se fait éjaculer sur la gueule par 5 mecs. Tu vois, on va un peu lui donner des fessées, on va l'insulter et tout. J'ai bien compris que tout ça, c'était le fantasme très masculin.
Mais
et que
on n'est pas obligé de le faire.
Non, je sais bien. Ouais. Mais dans une majorité, je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que moi, quand j'ai découvert ma sexualité, j'ai d'abord regardé des pornos. Et j'ai vu, ce qui n'est pas bien, on est bien d'accord. Mais j'ai vu les meufs qui subissaient, tu vois. D'accord. Et je me suis dit, ah merde, ça veut dire que moi, en fait, il faut que je fasse ça. Ouais, et donc, pendant des années, tu vois, j'ai simulé, j'en ai fait trop, tu vois, et puis j'ai beaucoup couché, tu vois, mais j'avais l'impression que je venais répondre au désir des mecs, mais que moi, mon désir, genre mon envie, bah, elle n'était pas très entendue. Et c'est pour ça que je trouve que le porno éthique est peut-être un peu plus représentatif, tu vois.
Ah oui, dans ce sens-là, oui, oui, largement. Moi, j'étais sur un porno de ce type-là, c'était Olympe de G qui l'avait fait.
Oui.
Donc, c'était super sympa, décontracté et tout. Et ça rejoint, après, tu sais, après, ça dérive vers un côté un peu politisé.
Bien sûr.
Et c'est là où je me retrouve pas, parce que... Ben, il y a quand même, si tu prends les coulisses de quand même beaucoup, beaucoup de porno, il y a un respect qui est basique, qui est là, qui est normal, quoi.
Ouais, mais c'est parce que t'es dans le milieu. Parce que nous, vraiment, d'un point de vue en tant que spectateur...
Ah ouais, l'image. Ah oui, 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 bien
toi,
sûr.
Je parle de l'image.
Moi, j'ai été dans des gangbangs. C'était à l'époque, c'était surtout en 2005.
Ouais.
Et je me souviens, c'était Gangland, les titres. Et puis, c'était, il fallait 3 ou 4 gars. Et l'actrice, il fallait qu'elle ait 19, 20 ans. Voilà, mais c'était des actrices volontaires, hein.
Bien sûr,
c'était
ouais.
Dans les pays de l'Est. Et là, en fait, je me souviens que moi, souvent, le réalisateur coupait la caméra et nous disait, mais il nous engueulait parce que ça rigolait, parce que et l'actrice aussi, et il fallait que c'est l'air costaud et d'envoyer. Et puis, t'avais des gens qui pouffaient de rire, qui se racontaient des conneries et tout. Ils disaient, mais ça va pas du tout, là. Et on se faisait vraiment engueuler. Donc, au montage, s'ils veulent que c'est l'air vraiment dur, 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 ça peut être vraiment dur, dur,
oui,
dur.
Oui, de toute façon, le montage, il fait quand même beaucoup.
Mais effectivement, l'actrice a 4-5 gars, c'est clair qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée.
Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes déjà avec un gars, moi, au bout de 15 minutes, je suis genre, ah, je vais peut-être faire une petite pause club quand même. Mais non, mais est-ce que tu penses justement que le porno un peu éthique peut faire un peu bouger les choses, ou t'y crois pas trop, ou...
Alors, pour moi, ça a déjà fait bouger les choses. Parce que ça a donné de la voix aux acteurs, aux actrices, aux réalisateurs porno qui veulent bien faire les choses. Après, ça, c'est des catégories. La catégorie gangbang, il y a la catégorie érotique, il y a la catégorie... Tu vois, il y a 10 000 catégories. Oui, après, il y a une éducation à faire, tu vois. Ne serait-ce qu'au niveau de la jeunesse, leur expliquer vraiment que ce qui se passe dans un porno, c'est pas forcément ce que t'as besoin d'aller reproduire.
Mais ça, tu vois...
De façon basique, quoi.
Oui, mais en fait, t'as entièrement raison. Sauf que moi, qui ne suis pas dans le milieu, qui suis hétéro, et qui ai couché avec quelques hommes quand même, je me rends compte que leur imagination, elle est basée sur le porno. Et donc souvent, moi, je me suis retrouvée dans des situations où en fait, ils ont l'impression qu'on est dans un porno, tu vois.
Ouais,
et qu'en fait, bah, moi, je kiffe pas spécialement, ouais, en fait. Ouais. Ça peut être très cool hein, que tu m'étrangles un peu et que tu me mettes des fessées, c'est... why not, tu vois.
Ouais.
Mais c'est... Juste, tu sens qu'il y a la culture porno chez les mecs, très forte, et que pour s'en détacher dans la vraie vie, je trouve que c'est pas toujours évident,
ah oui.
Tu vois.
Que moi, le porno que je filme maintenant, je fais tout pour que ça ressemble pas à un porno, donc c'est plus compliqué, quoi.
Ça veut dire quoi, que tu fais tout pour que ça ressemble pas à un porno?
Eh ben, c'est que déjà, quand je contacte l'actrice, je lui demande qu'est-ce qu'elle voudrait faire.
Ah, tu réalises?
Ah oui, je réalise et je produis gentiment. Je dois sortir un nouveau site, mon premier... Parce que j'ai un site, mais qui est sur le coaching sexuel.
Ok.
Donc, particulièrement pour les hommes. Mais je leur explique, par exemple, ce genre de choses-là, si on ne te l'a pas demandé.
Ouais, c'est le consentement, quoi.
Voilà, ouais, c'est pas de la peine d'aller là-dedans, quoi. Ça fait prendre une gifle, enfin voilà, c'est pas plaisir à grand monde, quoi. Et au niveau de mon propre site, que je tourne en secret depuis maintenant, ça doit être plus de 6 mois, ben, je demande aux actrices qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, qu'est-ce qu'elles ne font pas. Parce que quand même, il faut que tu saches si elle veut faire de l'anal, si elle ne veut pas en faire. Il y en a certaines qui prennent plaisir avec de l'anal, d'autres pas du tout. Moi, l'anal, j'en fais pour les films. Si c'était moi perso, j'ai eu tellement de mauvaises expériences, avant même que je me demande si j'aime ou si j'aime pas, que c'est un endroit que je laisserais assez facilement tranquille. Parce que voilà, j'ai pas que des bonnes histoires. Mais je leur demande ce qu'elles veulent faire. Et après, quand on attaque la scène, je leur précise que j'ai vraiment besoin qu'elle soit volontaire. Donc, il ne faut pas qu'elle reste juste dans une position à subir Josh qui se défoule. Il faut vraiment qu'elle vive le truc, quoi. Et je fais tourner de plus en plus des couples, d'ailleurs.
Ah ouais.
Comme ça, elle est en confiance.
Des couples avec toi?
Ah oui, oui, oui. C'est le mari, la femme, le copain, la copine. Et puis, moi, en plus, donc, on est dans l'histoire de mon site. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que je plante un vrai feeling. Le gars, je lui mets pas la pression. Je lui dis, t'as rien besoin de prendre avec moi. Tu te piques pas la bite. Des fois qu'il soit tenté, parce que des produits qui se... Viagra, tout ça, et pas obligé.
Mais ça, honnêtement, entre toi et moi, c'est vraiment un truc banal
c'est
dans le milieu.
80... Je vais continuer à me faire des potes. Je pense qu'on est à 98% des mecs qui se piquent.
Mais ils se piquent la teub avec...
C'est pour ça que tu les vois bander tout le temps. Le mec, il mange un sandwich, il se balade et machin. C'est pas autre chose.
T'as déjà fait ?
De me piquer ?
Ouais.
On m'avait proposé une fortune. On m'avait proposé une fortune pour que je me pique. Mais vraiment, quand je faisais une fortune, et en plus, c'était à la naissance de mes enfants. Donc, j'étais vraiment à la rue financièrement. Et donc, j'ai essayé. Et alors, hormis l'appréhension, en plus, une prise de sang, je tourne la tête.
Ouais.
Alors là, c'est une piqûre. La prise de sang, je ne connais même pas la longueur de l'aiguille. Je n'ai jamais regardé.
Ouais.
Et là, en fait, au niveau de la bite, parce qu'on me proposait vraiment, les mecs réalisateurs, ils me disaient, écoute, avec la bite que tu as, je te paye tant par scène. Je pouvais en faire trois par jour. Mais par contre, il faut que tu te pites parce que, en fait, ils voulaient que la bite reste constante comme un bout de bois. Et ce qui n'est pas mon cas, moi, quand je suis en action, voilà, j'ai un gros membre, mais c'est handicapant aussi. C'est-à-dire que si je sautille sur une jambe, je vais perdre l'érection. Donc, pendant la scène, quand j'envoie plus au niveau énergie, je suis obligé de vraiment me caler au niveau des jambes, d'être centré, de respirer correctement pour garder l'érection. Si je ne respire pas correctement, la priorité de mon corps, c'est mon cœur, c'est la circulation sanguine et pas la bite. Donc, je perds l'érection. Et donc, voilà, le mec, il me propose ça. Et j'ai essayé, effectivement.
Tu l'as fait.
J'ai essayé deux fois et le produit n'a pas marché.
Ça me fait mal.
Ah mais oui, attends. Et puis moi, pour rien, donc je me l'ai mis comme une saucisse.
Ah putain, mais attends. Tu le mets... Tu le mets à quel niveau du sexe?
Alors c'est plus vers la base, c'est vers l'endroit où la peau est quand même plus épaisse.
Oh, putain, il y a mon rédac chef et mon ingé son, ils sont
je
en train de sauter.
Je n'y regarde pas.
Et qu'est-ce que t'injectes en fait? C'est quoi? C'est du Viagra?
Ah, c'est pas du Viagra, les mecs, c'est de la chimie.
Tu sais même pas vraiment ce que c'est, quoi.
Ah si, alors il y a des noms, il y a papaverine, il y a différents trucs. Mais après, c'est pas mon truc. Moi, déjà, le produit n'a pas marché. J'ai essayé parce que vraiment, financièrement, j'étais à la rue.
Ouais.
J'avais une famille toute neuve à nourrir. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, solution simple. Et puis, plus de problèmes d'érection, j'ai plus besoin de respirer, je peux faire de l'apnée. Je me suis dit, ça va être incroyable, quoi. Et le produit n'a pas marché. Alors après, attention, parce que j'ai essayé une première fois. Et quelques années plus tard, même scénario, un autre réel. Et là, pareil, il me fait une offre démentielle.
Parce que vous êtes payé pour vous piquer, quoi.
Alors non, là, les mecs, ils sont pas payés pour se piquer. Moi, on me le proposait parce que j'étais dans des mensurations hors normes à l'époque.
D'accord.
Les autres, ils sont plutôt poussés à se piquer. Moi, j'ai vu des jeunes qui commençaient et je leur dis, mais pourquoi tu te piques? Et ils me disent, on m'a pas laissé le choix si autrement, je pouvais pas. Ils me disent, non, tu seras pas au niveau.
C'est la performance qui prime, quoi.
Performance, mais la performance est mauvaise parce que mecs, moi je les vois, il n'y a plus de contact avec l'actrice.
Bah, tu m'étonnes.
Moi je suis obligé de respirer. Donc déjà j'ai l'air d'un humain.
Ouais.
Je suis obligé de respirer. Après je vais avoir besoin d'aller chercher du contact, d'aller renouveler le désir, l'envie, parce que c'est vraiment tu mets du bois sur le feu, quoi, pour garder l'envie à cette intensité-là. Et en fait, une fois que tu es dans ce genre de produit, tu n'as plus besoin de tout ça.
C'est
en
fou,
plus que arriver chez toi, vu que tu chantes ton cerveau. Pour réussir à avoir une érection, avoir une envie, ton cerveau, il a l'habitude d'avoir un échafaudage, quoi.
Et oui.
Et
sans ça, du coup, ça devient compliqué pour certains, quoi.
Voilà. Moi, j'ai pas les coulisses parce que, un mec, il va jamais me dire la réalité en
ouais,
face.
Bien sûr.
J'ai les coulisses de quelques ex, tout ça. Je fouille pas, c'est pas mon business.
Ouais.
Pour moi, les mecs, c'est pas des. Ils sont pas coupables, ils sont victimes. Même si les mecs, je les vois ils font les costauds à l'écran, ils ont l'air d'être très, très, très en place.
Mais parce qu'ils ont une pression. Ils ont une pression d'être dans la performance.
Mais après, le problème, c'est qu'ils oublient que sans ça, ils n'ont pas la moitié de cette performance.
Je suis d'accord avec toi, mais en effet, tu arrives dans le porno. T'es un homme lambda qui évidemment, peut être en érection, mais peut aussi ne pas l'être, parce que c'est comme ça.
Ouais.
Mais que là, on te dit, il faut que tu le sois tout le temps, parce que t'inquiète que tu vas tourner. Et évidemment, qui pense à se piquer. C'est malheureux d'en arriver là.
Beaucoup arrivent et ne connaissent pas ça. Il y a la plupart des gens dans le public ne savent pas que les mecs se piquent.
Mais quand
moi, j'en parle ouvertement parce
que
au moment où il y aura des scandales par rapport à ça, s'il y a un décès, s'il y a un mec qui est handicapé ou quoi, je ne veux pas être mis dans le lot, dans le même panier que les gars qui ont été là-dedans. Je ne veux pas être du tout, je ne suis pas dans toutes ces histoires, donc je ne veux pas en être du tout.
T'as raison.
Maintenant, par contre, il ne faut pas regarder les mecs comme des coupables, il faut les regarder comme des victimes. Ça, c'est super important.
Oui, parce qu'ils ressemblent à la pression.
Le jour où il y en a un. Où vraiment il lui arrive un truc, et puis il va faire un procès ou quoi, et moi, on me demande de témoigner du genre de pratique, moi, le gars, je vais bien l'épauler, Je vais bien l'épauler, parce que c'est pas normal. Parce que le gars, quand
Parce que c'est les producteurs, en fait, qui sont très pressionnés.
Le réalisateur, après, il peut avoir la pression d'autres acteurs. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses.
Je savais pas que c'était 98%.
Alors moi, je t'ai donné un chiffre, parce que moi, je me mets pas dedans et je laisse une marge, tu vois. Mais il y a le nouveau, alors, tu vois, je ne veux même pas dire amateur, Parce que parfois, les amateurs font des vidéos, même très souvent, des vidéos plus intéressantes, on va dire, que,
ah, je suis d'accord.
Que des gros studios. Il y a un naturel que...
Moi, c'est marrant, parce que je parlais de ça avec mon mec, et moi, je lui dis, putain, je préfère tellement l'amateur, parce que j'ai l'impression que c'est vrai. Et il me dit, ah non, non, moi, j'aime les films, parce qu'il y a des bonnes caméras, les bons angles. Je dis, oui, ouais. Mais c'est un film, du
mais
coup,
moi,
il y a moins de...
Mais moi, j'en connais tellement les coulisses, tu vois. J'en bah, connais ouais. tellement les coulisses de ça, que j'ai pas envie de... Moi, j'ai tourné, deux longs-métrages, dont un qui a été diffusé sur le Canal Plus du samedi soir.
Okay.
Donc très scénarisé, c'était plutôt marrant et tout ça, donc il a été diffusé tout ça. Et donc j'ai utilisé des grosses caméras, des vrais techniciens de l'audiovisuel. Et c'est sympa, je l'ai fait une fois. Aujourd'hui, là, j'ouvre un site internet, je le présente vraiment comme étant amateur. C'est Joss, mais je fais de l'amateur, quoi. Que ce soit dans la façon de filmer et tout, parce que moi j'ai besoin d'avoir des gens qui jouissent vraiment à l'écran. Et si je commence à les embêter avec « bon alors, cadre bien là, mets-toi bien là comme ça ou quoi », je leur donne juste des axes par rapport à ce qui se passe. Et après, je leur dis « mais vas-y, lâche-toi. Lâche-toi ». Moi, je leur dis « si une fille, si une actrice, si elle est perverse en face de moi, je ne vais pas la retenir. » Je dis « mais elle est en train de s'exprimer, vas-y, lâche-toi.
» Tu regardes, toi, des pornos parfois, tu te masturbes devant des pornos ou ça t'arrive
ouais,
plus
pour l'échauffement. Ouais. Ah, pour maintenir. Alors, c'est pas... Il y a l'échauffement d'avant une scène, quand je sens que là, vraiment, je pars de très loin, c'est-à-dire que je suis en train de penser à la mécanique de ma voiture ou un truc, et que là, je suis pas du tout sur le truc, donc il faut que je me remette, j'appelle ça mettre la tête au cul. Et autrement, ce serait plus... tu vois, par exemple, je vais avoir une période, quand je suis chez moi avec une sexualité normale, tu vois, pas où on baise pendant des heures tous les jours... Et eh ben moi, la forme de mon sexe avec la fatigue va changer.
Okay.
Il va être beaucoup plus courbe. Le corps spongieux, il est beaucoup plus resserré. Et donc je vois que j'ai une diminution dans la taille. Et donc ben de temps en temps de se remasturber, mais c'est pas se masturber pour l'éjaculation. Donc tu te donnes du plaisir, autrement tu bandes pas. Mais sans pour autant aller jusqu'au bout, c'est une façon de garder le shape, quoi, de garder la ouais. forme. Et pour les tournages à venir, parce qu'autrement, je vais passer de tout à fait normal à un sprinter accompli. Quoi.
Oui, mais tu regardes jamais des pornos juste parce que oh, j'ai trop envie de me branler, je suis hyper excité, j'aime regarder un petit porno.
Moi, je le vois comme un moment de détente, tu vois. Le moment de détente, c'est pas la masturbation furieuse du gars frustré. Quoi.
Je vois très bien. On va marquer une petite parenthèse qui s'appelle l'intimidé. Juste devant toi, t'as un petit dé avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Et chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer le dé bleu. Ah bah si on parlait de ça, quelle est la plus grosse boulette que tu aies faite au travail ?
Alors j'en ai eu plein. allez, on va parler au niveau du porno.
Ouais, ça ou même bah, dans tes autres métiers.
Alors,
est-ce qu'il y a un truc qui te vient comme ça, tu dis ah putain là j'ai merdé.
Bah je vais les citer tous. Quand j'étais dans l'armée, alors là c'était vraiment à mes débuts, hein, j'étais pas grand discipliné. Je suis parti avant qu'on nous donne l'autorisation de partir de la caserne. Je suis parti à pied et en fait j'ai fini au trou parce que bah j'étais considéré comme déserteur. Mais moi, je veux juste pas regarder l'heure et je me suis barré, quoi.
Ouais.
Mais le lundi, on m'a chopé, on m'a dit « Non, ça marche pas, ça marche pas ton excuse
!»
Donc, c'était le trou, mais c'était gentil. Gentil, c'était plutôt chiant, tu prenais des permanences et des permanences, quoi. Ouais. Voilà, ça te guérissait de façon utile. Après, en plongée, j'ai cassé beaucoup de matériel en plongée.
Ah ouais, j'imagine. Ouais. Hein.
Mais j'ai jamais caché. Voilà, je remontais, je disais « Bon, bah, c'est moi qui l'utilisais, je l'ai cassé. Ouais. » Il y a eu caméra, j'ai cassé une barre à mine.
C'est quoi une barre à mine ?
Alors une barre à mine, c'est surtout celle qu'on utilise en plongée, souvent à fond un bon 1,50 m de long, c'est une barre en métal qui te sert à pousser du poids. Sous l'eau, par exemple, on arrive à bouger, un mec seul, il arrive à bouger 5 tonnes facilement.
Waouh !
Et généralement, quand t'y arrives pas, on te donne une barre à mine plus grande.
D'accord. Okay.
Et ouais, j'ai tordu, j'ai pas cassé, j'ai tordu, mais après, en fait, ça fait une faiblesse, t'es obligé de la chauffer pour la redresser, donc potentiellement, c'est plus la même. J'avais laissé au mauvais endroit... Après, des outils perdus, voilà.
Et dans le porno ?
Et dans le porno, plus grosse gaffe. Oh, ça va être... c'était marrant. C'était sur un blackhead. Alors, en France, on dit blackhead. Mais blackhead, c'est la production porno la plus jolie au monde, en fait. C'est la plus titrée. Ils ont créé, par la suite, ils ont créé Vixen, Touchy... Et tout ça. Non, mais voilà. Quand tu vois des très, très, très belles images avec un black dessus, très souvent, c'est blackhead.
D'accord.
Et ils sont en train de tourner, c'est très compliqué. Il y a un drone, il y a le jeu d'acteur, d'actrice, les caméras, machin. La mise en place est souvent compliquée parce que ils sont avec des. Il y a pas de marge. Ils sont obligés de se caler au millimètre. Et moi, je vais téléphoner. On était en Grèce ou à Mykonos. Oui, Mykonos, c'est en Grèce. Et je vais téléphoner dans un coin qui est prétendument tranquille. Enfin, je pensais. Et en fait, je suis pile poil dans l'encadreur d'une porte. Où le couple est en train de est juste en train de faire des bisous, mais en mode secret, il doit y avoir personne. Et je suis là, mais pendant allez, si ce morceau-là a duré 20 minutes, ben moi je suis resté en toile de fond à bouger pendant presque 20 minutes. Mais vu tout le monde est très focus sur la scène, ce qui est derrière en fait ne les a pas choqués, donc ils ont été obligés de le refaire. Mais 20 minutes de comédie, ça peut être énorme.
Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais. Pas mal. Bonne petite boulette, ouais. Toi, t'as voulu tu t'es lancé dans la réalisation, du coup.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans?
Ben, je m'ennuyais.
En tant que juste acteur?
En tant qu'acteur, je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que j'étais beaucoup sur des gangbangs, tout ça, à mes débuts. Donc ça a été formateur hein, parce que à l'époque il y avait pas de produit. Donc il y avait un travail d'équipe, c'est-à-dire que le gars les plus anciens que toi voyaient que bah ton érection retombait, il reprenait le rythme et ainsi de suite. Ça fait que tu débutais mais de façon sereine quoi, sans plus de pression que ça. Et puis j'ai pris un peu d'assurance tout ça, donc je commençais à maîtriser la technique, le travail. Et puis j'ai eu envie de faire quelque chose différemment, quoi, de plus fun, plus marrant, plus et d'avoir un vrai rôle plus élaboré. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé. Après, bon, j'ai fait ces deux films-là, ces deux longs métrages. Il y avait Poésie d'une bite noire et Story X, Sexy Livraison, le 1 et le 2.
Les titres sont incroyables. Poésie d'une bite noire.
Ouais, parce que les gars de Canal+ m'avaient dit, tu pourrais faire un truc un peu plus contemporain et avec des titres un peu plus explicites.
Okay.
Parce que mes Story X, Sexy Livraison, si tu veux, c'était le nom d'un sex shop à Toulouse, donc encore merci à lui, mais ça parlait à personne, en fait.
Ouais.
Voilà. Donc, voilà, ça, c'était le premier essai. Après, avec les plateformes, tout ça, tu sais, tout le monde se met un peu à filmer pour les différentes plateformes, ce qu'on appelle les tubes, les X-Vidéos, les machins.
Et, les tubes, c'est Pornhub.
Voilà, tout ça, okay. Voilà. Et là, plus récemment, en fait, j'ai eu de nouveau un ras-le-bol. Mais là, le ras-le-bol, c'est mon corps qui me l'a montré. En fait, c'est que sur les scènes, j'arrivais plus à éjaculer.
Ok.
Je faisais des scènes. Alors, c'était pas le problème. L'érection n'était pas le problème.
Ouais, c'était l'éjaculation.
C'est vraiment, j'éjaculais plus, quoi. Ça s'est produit une première fois. On était, c'était dans le sud de la France. Et une autre fois, c'était un film qui se tournait à la montagne, au sport d'hiver. Et pas moyen d'éjaculer et tout. Les filles, plutôt jolies, avec qui je m'entendais bien. Mais ennui, marre d'être là. Je sentais que...
T'avais fait le tour.
J'avais fait le tour, surtout que moi, je ramenais quelque chose, à cette production. Par contre, moi, j'en tirais pas grand-chose, quoi. En plus, à chaque fois, ça tombait pendant des vacances scolaires. Je me disais, mais j'ai rien à faire là. C'est les vacances scolaires. Si t'es pas avec tes enfants pendant les vacances scolaires, quand est-ce qu'ils ont leur perte? Enfin voilà, plein de choses où j'étais en lutte avec la réalité du truc et tout. J'en avais marre. Et j'ai arrêté. J'ai complètement arrêté avec ces productions-là. Donc, à ne plus tourner qu'à l'étranger avec certaines périodes, en évitant de tourner le mercredi, en évitant de tourner le samedi et le dimanche. Enfin voilà, une vie de famille, quoi. Et ça se passe beaucoup mieux. Et puis, je suis revenu à la réalisation, là, pour mon propre site internet. Mais c'est pas de la vraie réalisation, parce que je dis aux gens, je veux pas que ça ressemble à un porno.
Justement, est-ce que tu as aussi fait ça, c'est-à-dire réaliser parce que t'avais envie de défendre des valeurs, parce que je sais pas, peut-être que ta vision du X, comme l'inclusivité, le respect des femmes, il y avait quelque chose que tu retrouvais plus juste en tant qu'acteur.
Sur les deux premiers, il y avait un truc que je trouvais pas, c'était les femmes volontaires dans le sexe, quoi. C'était vraiment ça. J'avais envie qu'on voit la femme venir chercher son plaisir. Et je le voyais pas. Et comme tu le disais tout à l'heure, hein, sur les gangbangs, tout ça, quand il y a 4-5 gars, elle peut pas trop bouger pour montrer le plaisir. Enfin, si, il y en a certaines qui savent le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et là, quand j'arrive dans ce côté, l'intimité de ce couple, et puis moi qui leur dis « vas-y, lâchez-vous », que le gars, je lui dis « écoute, si t'éjacules, 3 minutes, c'est court, Mais ça le fait, moi, on continue, tu reviens quand tu veux, du moment que tu es présent, que tu parles à ta chérie et tout ça, ça le fait, je veux ta présence. Toi, je veux que tu prennes ton pied, tu parles à ton chéri. Moi, je veux qu'on sente que je suis le troisième élément de l'histoire. Il ne faut pas qu'à un moment, on ait l'impression que je suis plus ton mec que ton mec, même s'il ne baisse pas. Et déjà, avec ça, il y a un côté plus volontaire, c'est décontracté et tout, quoi. Mmh. Donc, moi, j'essaie de filmer une femme qui jouit depuis des années, en fait, c'est ça.
Ouais. Et t'y arrives.
J'y arrive, ouais.
Mais c'est vrai que c'est pas du tout ça qui est mis en lumière hein, dans le porno dit traditionnel, c'est vachement plus la performance.
Moi, je dis que c'est un peu j'appelle ça le cirque. Alors, c'est bien de savoir le faire. Je sais le faire. Maintenant, aujourd'hui, les scènes à plusieurs gars pour une actrice, je le fais plus. Déjà, je le garde pour moi parce qu'elle sera menée à ma façon. Deuxièmement, vu que moi, je me pique pas, ça veut dire que derrière, pour faire le même job, je vais devoir déployer 10 fois plus d'efforts parce que l'autre gars, le ou les autres gars, qui sont bien chargés et piqués jusqu'à la rétine, cette façon de travailler, ils ne la connaissent pas, ils ne l'ont peut-être jamais connue. Ils le font peut-être même pas exprès. Mmh. Mais ça veut dire que de faire le relais, et d'y aller tranquille et d'observer le travail en équipe et tout ça, et la fille fait partie de l'équipe aussi, l'actrice, ils ne savent pas le faire. Donc je ne vais pas aller me mettre dans ce truc-là, je l'ai fait. C'est laborieux, quoi.
Ah bah ouais, j'imagine.
Et j'ai plus envie, donc... voilà, il y a plein de choses que je fais plus, donc je deviens compliqué à tourner.
Si t'arrives de plus en plus à réal toi tes trucs, projets qui sont...
On me propose toujours des trucs, mais quand je leur explique mes conditions, je me dis, ils vont aller trouver un autre gars qui sera plus simple, mais je n'ai pas de regrets là-dessus. Non.
Tu tournes combien de fois par mois, en règle? Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de...
Alors là, non, il n'y a pas de règle. Après, moi, j'ai un rythme. Alors, c'est toujours pareil. Moi, j'écoute mon rythme en tant qu'être humain.
T'as raison.
Et en fait, pendant les 2-3 premiers jours, j'ai une montée au niveau des hormones qui fait que déjà dès le troisième jour, j'ai besoin de faire une scène de sexe. Donc, je me mets dans cette optique-là. Pas de masturbation la veille, je me couche tôt. Pas de masturbation dans la journée. Accumuler des tensions sexuelles, regarder un peu de porno, même si c'est très soft, pour que quand j'arrive sur mon propre porno, je sois pas déçu. Avoir des envies, j'entretiens une envie sans la combler. Donc j'arrive sur le porno, j'explose, quoi. Tu vois, c'est simple. Après, au niveau rythme, en règle générale, pour moi, l'idéal, c'est 10-13 jours.
D'affilée. Tous les 10-13 jours.
10-13 jours d'affilée maximum.
Ouais, donc pendant 13 jours, tu tombes tous les jours.
Ouais, c'est pas souvent, mais ça peut arriver. Et là, je sais que je suis sur un rythme qui est confortable au niveau de l'énergie et de la puissance sexuelle.
Ouais.
Après, je rentre dans une fatigue, ou simplement, sans même la fatigue, je vais rentrer dans une routine.
Ouais, et oui.
Et c'est pas bon. J'arrive à aller chercher l'envie, à aller chercher la passion, mais quand je sais ce que je peux faire, quand je suis pas dans la routine, j'ai pas envie d'aller là.
Podcast.
Je me demandais, ça fait combien de temps que t'es avec ta femme?
Ça va faire... Mais attends, je vais l'appeler. non, je pense qu'on doit être ensemble depuis maintenant quelque chose comme 15 ans.
Et vos enfants, ils ont quel âge?
Là, ils ont 8 ans maintenant.
Ils ont 8 ans. Ta femme, elle n'est pas dans ce milieu-là?
Pas du tout.
Ok.
Pas du tout.
Est-ce que t'es ok qu'on parle un peu de ça? Parce que moi, ça me...
Ah bien sûr, il y a plein de choses, il y a plein de messages à délivrer. Là.
Donc, ta femme, elle n'est pas
gonzesse.
Du tout... Ta gonzesse n'est pas du tout dans ce milieu-là. Comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait?
Alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, elle est sortie avec un copain au départ. Donc, c'est une rencontre loupée.
Ouais.
C'est la revanche. Il y a des messages. On va s'écouter le podcast tous les deux. On s'est rencontrés. Moi, j'étais scaphandrier au Havre. Et elle était étudiante à Rouen. Et en fait, faire la fête sur le Havre, c'était plutôt tristounet. Donc, on faisait 200 bornes la nuit entre potes. Et puis, on allait faire la fête à Rouen. Donc, il y avait beaucoup plus de filles. Je me souviens, on y allait avec une seule voiture, on était à 3-4, et en fait, en revenant, généralement, on jetait les numéros de téléphone par la fenêtre, c'était la tradition, comme ça on pouvait revenir sans être embêté la semaine d'après.
Okay.
Et là, en fait, mon pote qui sortait avec elle, forcément, il y avait un contact qui s'est fait, on a gardé le contact et on s'est côtoyé pendant des années sans être ensemble, pendant au moins 11 ans, quoi.
Côtoyé genre pote?
Ah ouais. Pote, ouais.
Pendant 11 ans,
première
il
année,
s'est rien.
De temps en temps, j'arrivais à la choper.
Ouais. Vous couchiez ensemble de temps en temps, mais vous étiez pas ensemble, quoi.
Ouais, mais elle voulait qu'on soit ensemble.
Ouais, ok.
Et puis après, on s'est perdu de vue, mais on est resté en contact. Et puis le jour où elle s'est séparée du gars avec qui elle disait qu'elle voulait avoir des enfants et tout. Là, je me suis mis à devenir indispensable. Moi, j'habitais en région parisienne, elle habitait du côté de Rouen. Et comme par hasard, il y avait besoin d'un truc, j'étais toujours à Rouen. Donc, je rôdais, j'étais devenu... elle ne pouvait pas ouvrir sa boîte à lettres, j'étais dedans. Tout. Puis, on s'est mis ensemble et voilà.
Et donc, quand vous êtes mis ensemble, tu étais déjà dans le porno ?
J'étais déjà dans le porno.
Et comment elle a vécu ça ? Moi, je me suis toujours demandé comment vivent ça, les conjoints, les conjointes.
Alors, il y a un truc, c'est déjà... Je faisais déjà du striptease à l'époque où on s'était rencontrés. Et elle avait vu mon évolution dans le striptease, quand j'en avais marre du striptease. Puis il y a une fois où, juste après la séparation de mon ex, je me suis retrouvé à me faire sucer dans une boîte de nuit par 8 filles. Après, on a voulu aller dans des toilettes.
C'est beaucoup quand même.
Je sais pas.
C'est pas mal quand même, 8 meufs qui fait pour un mec.
Et elle faisait la queue et tout, c'était assez réel. Je m'étais retrouvé à poil au milieu d'elle parce qu'elle m'avait enlevé mon drapeau de striptease et tout. Et quand il y en a une qui a dit « Viens, on le suce à deux ». Et là, moi, j'ai regardé ça et j'ai dit « Ah oui, oui, oui
bah ». Oui,
donc, j'étais
sûr.
Spectateur de ce qui se passait sur mon corps. Puis, j'ai voulu les emmener toutes dans les toilettes. Mais forcément, il n'y avait pas de toilettes handicapées. Donc, il faudrait se mettre à la norme, les mecs. Et donc, trop petit, le toilette. Donc, je suis resté qu'avec 3 filles. Mais le patron est venu nous déloger de là. Donc, Mais bon, enfin, voilà, quand je lui ai raconté ça, elle assistait à la montée en puissance, tu vois. Et ça la faisait marrer. Et par contre, le porno, c'était beaucoup plus cadré. Beaucoup plus cadré. Et puis moi, je lui ai dit, écoute, on peut se mettre ensemble, mais moi, je fais du porno. Et c'est bizarre, je sens que j'ai ma place dans ce business-là, quoi. Alors, j'étais vraiment très, très, très débutant. Et puis, ben, l'histoire parlait elle-même, quoi.
Et comment elle a vécu ça ? Est-ce que ça a été compliqué pour elle d'accepter que son mec fasse du porno, qu'il couche avec d'autres nanas, désire d'autres nanas ? Parce que...
Il y a le désir, quand même. Mais je pense que ça irait plus vers un côté... Alors déjà, on en parle ouvertement. Elle me voit faire les montages, elle a toutes les coulisses. Hein. Elle me voit faire de la route, je pars à 2h du matin, j'arrive à 21h en Hongrie. Enfin, elle voit des trucs, des coulisses qui ne sont pas marrantes du tout, quoi. Dans le sens fatigue et énergie à remettre. Et puis, ce truc où il faut aligner. T'arrives à Los Angeles, t'as un décalage horaire dans la tête de ouf. Et bien, t'as pas le temps, quoi. Ouais. T'as pas le temps, il faut aller tourner, quoi. Donc, il y a... Elle assiste à tous ces trucs-là. Après, la jalousie vis-à-vis d'autres actrices, déjà, je pense que c'est mon comportement à moi, quoi. Moi, j'ai ma famille, j'ai ma femme.
Elle n'est pas jalouse, quoi.
Non. La fois où il y avait une jalousie, c'était... Alors, c'est marrant, c'était... je danse dans la rue, c'était pour mon propre film. Je danse dans la rue avec Lisa Del Sierra. Donc, elle est en robe rose, et moi, j'ai une chemise blanche et un boléro, et on danse dans la rue, mais c'est le rêve de mon livreur de sextoys. Et c'est avec Lisa Del Sierra. Et ça l'a rendue jalouse. Elle m'a dit « Ah, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. » Et je crois qu'il n'y avait même pas un baiser à ce moment-là. Peut-être, mais ça devait être le maximum, quoi. C'est pas le sexe, c'est tout ce qui se rapproche plus à
du sentimental. De l'émotion, quoi. Enfin, ouais, c'est
du
ça.
Du sentimental, ouais, ouais.
Mais de savoir que tu couches avec d'autres femmes, elle est tranquille avec ça, quoi.
Ben, elle a dû s'y faire. Je dois être à 2000, plus de 2000 femmes différentes.
Ouais, comme moi.
Tu t'es habitué ? Non, mais ouais, il y a de ça, mais après, il y a le côté... C'est... On va la faire venir. Non, mais enfin, on en parle. Il n'y a pas la jalousie dans ce sens-là. C'est plus une jalousie,
moi,
le
tu
côté
sais.
Dérangeant, les bisous, les machins. Ce qui ramène au sentiment.
Moi, je pense que si t'étais mon mec ou que mon mec, il était dans le porno, je pense que j'aurais tout le temps peur de me dire « Mais il y a des nanas mieux foutues que moi. Donc, il y a des nanas qui sont plus désirées que moi. Et peut-être que bah, toi, mon mec, va moins me désirer à force à la maison, tu vois
Ça, ce truc-là, alors moi, je vais faire ma réponse à moi, c'est que je vais les désirer, et je m'entraîne à les désirer, j'arrive à désirer une femme que je ne désire pas, parce que bah, j'ai appris à le faire. J'ai pas eu non plus que des canons, j'ai eu des femmes qui avaient, j'avais 20 ans, elles étaient bientôt à 3 fois mon âge.
Ouais.
Donc,
bon, en fait, canon à 3 fois ton âge, hein, mais non, c'était mais pas ton style, quoi.
Le truc, c'est que c'est pas le sentiment. Il y a le désir sexuel, le désir du corps. Et après, moi, je regarde, c'est un tout, la personne que j'ai en face de moi. Ma femme, je veux dire, quand elle s'occupe de mes enfants et qu'elle leur fait faire les devoirs, je me dis, je me suis pas trompé, quoi. Parce que moi, si c'est moi qui leur fais les devoirs, ça va être beaucoup plus light, quoi. Elle leur apprend un niveau d'exigence que moi, j'aurais pas la patience de leur apprendre. Mais où je serais plus léger en me disant, oh, allez, on peut réussir sans ça, peut-être, tu vois. Il y a un tout, que ce soit la femme, que ce soit l'éducation, même à vieillir. Moi, je sais que ben, dans plusieurs années, ce sera toujours une très, très belle femme, même quand elle sera grand-mère. Voilà, il y a un tout. Il y a vraiment un tout. Et quand je suis avec une actrice qui est magnifique et que je suis plus dans l'intimité, parfois, je vais essayer de comparer, mais pas dans le côté physique. Vraiment sur ce tout. Et là, je me dis, c'est pas possible, il n'y a pas moyen.
Et justement, avec ton métier qui est le corps, quand tu rentres chez toi, je sais que c'est une question con et qu'on doit te la poser 12 milliards de fois, mais t'as du désir pour ta femme, t'as encore du désir quand tu rentres à la maison de « Oh putain, je suis claqué, laissez-moi là, j'ai pas envie ».
Ouais, parce que c'est complètement différent. Parce que c'est complètement différent, on n'est pas dans une performance, je suis pas dans le grand cirque. Regarde, c'est comme pour mon propre site, je veux sortir de ce côté extra-performance et grand cirque. Je veux que les gens en aient l'impression qu'ils se lâchent. Je préférais faire que ma scène soit trop courte parce qu'on est rincé, a fait 20 minutes, on est rincé, ça a éjaculé trop tôt dans tous les sens, mais je la garde. Je la trouve magnifique, la scène. Alors qu'en règle générale, on va plutôt avoir besoin de 45 minutes, 50 minutes. Mais dans mon site, cette scène, elle aura le droit d'exister, alors qu'ailleurs, alors c'est pas vendable, ça manque ci, ça manque ça, pas assez de position, tu vois. Donc, arriver chez moi, c'est un peu pareil, c'est juste, on se fait plaisir.
Ouais.
On se fait plaisir, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas ce côté performance, c'est pas du tout ma recherche. Quoi.
Et puis j'imagine que tu ne désires pas ta femme comme tu désires tes partenaires de jeu, quoi.
Carrément pas, ouais.
Pas du tout le même...
Il va y avoir des partenaires de jeu qui vont envoyer plus fort, mais ça ne serait pas ma femme.
Il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas le sentiment.
C'est peut-être pas des actrices avec qui on partira en vacances deux jours. Alors on va dire, mais putain, mais partir deux jours en vacances avec Joss, putain, mais le cauchemar. Tu vois, elle ne voudrait pas. Voilà, c'est... Il n'y a pas que mon avis, je suis tout à fait conscient. Quoi. Moi, je suis un père de famille, et en face de
D'ailleurs,
moi, je vais avoir...
Pardon, je te coupe, excuse-moi. Oui. Tes enfants, ils savent ce que tu fais comme métier ?
Alors, je vais être obligé de leur dire très très bientôt, parce que, en fait, moi, je n'ai pas besoin de leur mentir. Je suis encore scaphandrier, j'étais cordiste en même temps, donc j'étais engagé dans l'armée bien avant leur naissance. Mais scaphandrier, cordiste, je le suis encore alors qu'ils sont déjà nés. Donc je leur dis que je filme parce que je fais des inspections et tout ça. Donc je filme, ils le savent. Après, le détail du sexe et du porno, je suis très embêté parce que je vais devoir devancer le moment où je me disais, je vais leur en parler à 11, 12 ans, gentiment, à leur rythme, et je vois qu'il va falloir que j'y aille plus tôt, parce que à l'école, les autres parents d'école me reconnaissent. Il y en a qui disent rien, il y en a qui sont au courant et on en parle ouvertement, mais pas devant l'école. Mais eux, ils vont le dire à leurs enfants, parce que ça ne touche pas le couple, ne touche pas le couple parental. Ça se passe chez Joss. Et c'est les enfants de Joss, le papa fait ça et tout ça. Ils vont en parler ouvertement parce que ça les touche pas, eux. C'est arrivé dans ma propre famille. J'ai mes neveux et nièces qui ont la plupart sont majeurs. Un jour, je leur dis, mais depuis combien de temps vous êtes au courant ? Oh, je sais pas, ça fait des années, maman, papa nous l'avait dit. Et là, je lui dis, merde, parce que moi, je l'ai caché. J'ai caché. Et là, je me suis dit, alors si dans ma propre famille, ça se passe comme ça, les autres parents, ça va être bien plus que ça.
Oui, ils ont le mérite que de l'apprendre par son papa, pas par des...
Voilà, parce que ce sera déformé, ce sera « mais papa, il couche avec d'autres filles, donc d'autres femmes, donc il n'aime plus maman ». Et seulement le truc, c'est qu'il faut choisir à le bon rythme, parce qu'eux, ils sont en train de forger leur sexualité aussi. Donc, il ne faut pas être traumatisant. C'est complexe.
C'est assez complexe, c'est vrai. Justement, en parlant un peu des enfants, bon là, ce n'est pas forcément le cas, mais plutôt des adolescents. Qu'est-ce que tu penses justement du porno avec la jeunesse, tu vois ? Parce qu'on en parlait un petit peu avant, où beaucoup de jeunes s'identifient au porno en pensant que c'est ça, la sexualité. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Déjà, plus ils connaîtront les coulisses, et moins ils auront envie de copier, parce qu'ils vont se dire, putain, mais c'est bidon en fait. Les gens, les gens en règle générale disent, le porno, l'accès des jeunes au porno et tout ça. Il y a déjà des trucs, c'est que le porno a quand même une autodiscipline. Il est quand même filtré. Les AdSense et tout ça ne fonctionnent pas forcément bien. Parce que tu es capable de voir la nudité quand même. Donc à la base, les parents sont là pour éduquer leurs enfants.
Bien sûr.
La sexualité, il faudrait que ce soit les parents qui l'expliquent à leurs enfants pour que ce soit expliqué dans la façon qu'ils voudraient que ce soit expliqué. Parce que le problème, c'est qu'en ne disant rien, en n'expliquant rien, les enfants, leurs questions, ils vont aller trouver des réponses tout seuls qui ne seront pas les bonnes. Ça va être super violent. Le porno, c'est fait pour des adultes qui sont censés avoir des fantasmes. C'est pas fait pour un porno éducationnel, et s'il y en a, c'est même déjà trop élevé, parce que j'en ai vu, et c'est très cru. Même moi, quand je fais mes cours de sex coach, où j'explique comment je masse pour faire ci, pour changer la forme, machin, ça paraîtrait super cru. C'est pas violent, je suis tout seul, mais c'est cru, quoi. C'est une bite en gros plan, quoi.
Ouais.
Et il faut expliquer. Donc, au niveau des jeunes, pour moi, hein, le porno gratuit, il faudrait que ce soit interdit. Tout simplement.
Donc les YouPorn, les Pornhub et tout, tu penses qu'il faudrait pas...
Il faudrait que l'accès soit possible avec une carte de crédit.
Ouais.
Déjà, c'est parce que la carte de crédit, bon, si ton gamin a une carte de crédit, là, c'est entre toi et, et lui, mais ça limiterait grandement l'accès. Et le porno gratuit a fait beaucoup de mal au porno, entre guillemets. C'est pas les intervenants du porno qui ont décidé ça. Moi, j'ai vu des productions couler à cause de ça. Hein.
Ouais. Bah ouais, tu m'étonnes.
Mais c'est l'explication, l'éducation, mais...
Non, mais c'est assez juste, et puis moi, je pense que c'est aussi l'école, tu vois. Moi, bon, je vais avoir 35 ans, mais à l'école, nous, on nous a juste montré comment c'était un pénis et comment mettre un préservatif sur une barre en fer. Tu vois, j'ai jamais vu le clitoris, tu vois, sur des images, sur les bouquins. Moi, il n'y avait pas ça. Hein.
D'accord, alors moi, il n'y avait pas du tout.
Tu vois, il y a la notion du plaisir, le clitoris, quand
non,
même.
Non, mais il n'y avait pas, moi.
Mais bien sûr qu'il n'y avait pas. Tu vois. Et que c'est. Et moi, pareil, je pense que je n'ai pas forcément parlé de sexualité avec mes parents. Ils m'ont juste dit, voilà, il faut se protéger. Et encore, donc effectivement, les jeunes vont trouver des réponses dans de la pornographie. Et c'est justement, moi, ce que je trouve un peu dangereux, c'est qu'après, ils veulent reproduire ce qui s'est passé.
C'est ça, parce que le porno est là, et s'ils veulent y accéder, ils y arriveront toujours par un moyen ou un autre.
Ça,
à la base,
clair.
Il faut qu'il y ait des explications, qu'il y ait des adultes qui démystifient sans raconter trop de conneries, parce que. Tu vois, il y avait un truc, je me souviens, j'avais mis un like, c'était, mince, Kinugi, je sais plus. Bon, c'était une femme qui expliquait le porno, même quasiment dans des écoles. Je me suis dit, c'est pas mal, très bien. Et puis après, quand elle commençait à dire que les filles se faisaient mettre de la chaux autour du trou du cul pour que ce soit plus blanc et tout, je me suis dit, mais c'est de la torture, il faut appeler la police pour des trucs. C'était des conneries. C'est des conneries, elle a grossi le trait en allant dans des directions où c'est juste de la torture, c'est n'importe quoi. Alors qu'à la base, je me disais, c'est bien d'aller l'expliquer.
Ouais.
Voilà.
Podcast.
Je voulais revenir là-dessus parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, après on va conclure, mais t'es également coach sexuel, c'est ça?
Effectivement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Consiste en quoi? Pourquoi t'as fait ça?
Alors déjà, à la base, c'était pas mon projet... J'avais lancé, le seul mec que j'ai lancé dans le porno de toute ma vie, en gros, je devais revendre ses cours.
Ok. Attends, surtout, là, tu parles d'un mec qui s'est lancé...
Il faisait le coach sexuel, oui, effectivement.
Le coach sexuel, ok.
Et il
sur
le faisait
YouTube.
Bien. Alors, il avait sa chaîne YouTube, mais il était fermé. Moi, je suis banni de YouTube et de TikTok aussi. Hein.
D'accord.
Il faut me chercher. Hein.
Ok.
Et banni, mais à vie.
Okay.
Ils veulent plus me voir. Et alors que j'étais super, super soft, mais tu vois, les signalements et tout. Donc, lui, il a fait son business là-dessus. Puis moi, j'étais censé revendre ses cours. Donc, il a fallu que je refasse ses cours. Et en regardant ses cours, j'ai vu que ses vérités à lui n'étaient pas les miennes, en fait. Mmh. Donc, j'ai modifié quand même les cours. Et puis, j'en ai aussi fait d'autres, comme comment devenir acteur. Dans le coaching sexuel, aussi par rapport à tout ce qui est la perte d'érection. Les gens qui ne demandent pas suffisamment longtemps, les éjaculations précoces.
Mais c'est pas des one-to-one, quoi. C'est des leçons, les gens payent pour ça.
Ah, c'est des leçons d'une heure. C'est
des leçons d'une heure. Mais
moi,
pas...
je donne toutes mes astuces.
D'accord, mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire « je veux prendre rendez-vous avec toi parce que je veux te parler de mon problème ».
Non, j'y pensais à le faire, ça, mais il y a des choses à mettre en place.
Ouais, et, puis,
et là, ça veut
temps,
dire qu'il faut que je sois disponible. Et puis, je ne suis pas thérapeute, quoi.
Ouais, ouais.
Donc là, c'est... Moi, je donne mes astuces qui ont vraiment fonctionné parce que j'ai connu l'impuissance.
Ouais.
Ah oui, parce que quand même, quand je me suis séparé de cette fameuse ex, quand même, j'ai pris la fuite parce que je voyais que je ne bandais plus, j'avais plus d'érection.
Mmh. Ouais, c'est fou, ça.
Ah oui, comme quoi le mental peut vraiment être...
Ça joue énormément, c'est clair. Pour conclure, je voulais un petit peu avoir ton regard justement sur l'évolution de l'industrie du film pour adultes. Tu l'imagines comment dans les années à venir?
Alors, pour moi, je pense que les vrais, vrais futurs stars du porno, c'est les transsexuels.
Ouais, ok.
parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues communes à faire, qui sont orientées vraiment pour le public gay, en fait. C'est des hétéros qui font des trucs qui sont très, très gays. Mm. Quand tu commences à mettre deux zizi dans le même vagin ou le même anus, ou voire plus, toujours dans le même vagin, le même anus, à l'image, qu'est-ce que tu vois? C'est des trous de cul de mec. Une étoile, et puis plein de bites dans le même trou. Ouais. Donc, ça séduit un public gay qui n'a pas forcément... ils ont plein de produits, mais là, ils voient des gars hétéros qui font quelque chose qui est quand même assez gay. Moi-même, aujourd'hui, je me définis plus comme un hétéro ferme, Parce que quand tu fais des gangbangs, des trucs comme ça, où on est plusieurs, tout ce que tu sens, mais vraiment, vraiment,
c'est le sexe,
c'est la bite de tes copains. Hein.
Ouais.
Et même, vu comment on est membré, y en a un dans l'anus et l'autre dans le vagin,
ouais.
Le copain à l'étage en dessous, tu le sens.
Hein. Et ça te plaît ?
Ça me dérange pas, je m'en
fous.
Vraiment, vraiment. Donc l'évolution, je pense que les transsexuels, ils vont prendre une grosse, grosse place. Et après, c'est, techniquement, ça évolue sans arrêt.
Ouais.
Ça évolue sans arrêt.
Ça, c'est cool aussi, hein, parce que je trouve que, n'empêche, le porno, maintenant, t'as accès à tout, quoi. On peut tout voir, les fantasmes, ils sont mis en lumière de tout, hein. Enfin, franchement, il y a tout. Il y a des trucs vraiment que moi, j'estime et juge genre très, très loin d'une forme d'excitation, quoi.
Ah bah oui, oui, bien sûr.
Et puis, il y a d'autres trucs où que je fantasme, où je pense qu'il y a des années, ça n'existait pas, tu vois, dans le porno.
C'est ça. Tout le monde a trouvé, c'est ce qu'on appelle des niches.
Ouais.
Et c'est vrai qu'au niveau du porno, au final, il n'y a pas de physique interdit. En Europe, on ne s'en rend pas compte, parce qu'ils sont très axés sur l'actrice qui est très fine et qui paraît jeune. Ils sont très axés là-dessus. Mais quand tu vas aux États-Unis, MILF, plus âgées, tout ça, elles ont un vrai public, elles gagnent bien leur vie.
Et en même temps, c'est fou, parce que les nanas, tu vois, qui sont hyper bien foutues et tout, je ne dis pas que les nanas en France ne le sont pas, mais ça ne représente pas du tout la majorité des femmes. Hein. Les corps qu'on voit dans les pornos, même les sexes qu'on voit dans les pornos, ça représente pas forcément, je trouve, les nanas, tu vois, qui travaillent, quoi.
Moi,
je me retrouve pas dans le corps. Bon, moi, je suis en surpoids, ok. Mais même, tu vois, les nanas minces...
Caser 25 ans et caser ce physique-là, c'est peu commun.
Ouais, c'est clair.
Mais après, c'est des... Il y en a certaines qui vont avoir, tu parlais de plus de poids, tout ça. En France, ça va être potentiellement une actrice qui va avoir 2-3 scènes parce que les productions, ils vont pas tellement l'utiliser. Mmh. Aux États-Unis, elle fait une carrière complète et on lui demande de perdre un kilo, les gens s'en battent, ils l'aiment comme elle est.
Ouais. Tu vois, Nikita Bellucci, elle me disait qu'elle a une pression du corps, quoi. Tu vois, il y a la pression du corps. Lisa, Anna Paulina, elle me disait qu'il y a la pression du corps. Il y a vraiment. Mais bon, comme c'est un métier d'image, en vrai. C'est un métier d'image quand t'es mannequin, quand t'es acteur. Alors, c'est autre chose, hein, mais c'est un métier d'image. Quoi.
Moi, je regarde en tant qu'acteur noir, parce que je suis vraiment dans une case, donc je suis obligé de le préciser.
Ça fait chier, moi. Moi, ça me saoule, ces cases-là, tu vois.
Moi, je m'en fous un peu, parce que ça m'a rendu. Je suis pas un anonyme, je suis jamais arrivé sur une scène en étant un anonyme, quoi.
Ouais.
Voilà, donc ça m'a servi entre guillemets. Donc moi, effectivement, en tant qu'acteur noir, j'ai intérêt à être membré, voire surmembré. Il y a toujours un comparatif. Moi, je reçois, il y a un tel, je crois qu'il en a une plus grosse que toi. Et moi, je me dis, peut-être, parce que j'aurais pas forcément bossé avec le gars, mais je dis, tu sais, au-dessus de ma taille, ça devient un handicap quand même.
Mais tu sais, moi, j'ai déjà couché avec un mec qui était extrêmement membré, c'était un enfer. Franchement, c'était hyper dur, quoi.
Il n'était pas à Joss Scaff.
Je ne connais pas cette personne. Non, mais j'avais couché avec un mec il y a très, très, très longtemps qui avait une teub énorme.
Ouais.
C'était l'enfer.
Bah, le mec, ouais. S'il s'y prend comme un manche, c'est une matraque, quoi.
Ah, ouais, franchement, c'était compliqué. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, de ce truc du cliché que les noirs ont une grosse teub, en fait, que ça me saoule.
Ah, pour ceux qui ne c'est pas le cas, c'est raide. Hein.
Bah, ouais, tu vois.
Ah,
fait, là, au final, c'est du racisme banalisé. On s'en rend pas très compte, mais
oui.
Le noir doit avoir une grosse teub.
Les abdos, les pecs, les machins.
Exactement. Les meufs qui sont, je sais pas, tchèques, par exemple, elles doivent avoir les seins refaits. Je te dis n'importe quoi. Mais c'est des clichés. Nul. Enfin, moi, j'ai déjà couché avec des mecs qui n'avaient pas des grosses tubs et je pense qu'ils... Enfin, je sais pas comment te dire, mais c'est... On en fait des clichés, tu vois.
Ouais, carrément.
Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que du coup, il y a certains mecs, et certaines meufs aussi, hein, mais qui vont être complexés, tu vois, sur des trucs. Mais bon, ouais. Mmh. Et la dernière petite chose, je voulais savoir justement si... c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le porno?
Oh, ça, c'est, ça, ça touche à mes cours, comment devenir acteur porno.
Allez. Ou actrice.
Non, moi, je lui dirais...
Ou la meuf, hein, il faut aussi inclure les nanas.
Les femmes, c'est tellement plus simple.
Ouais.
Après, les femmes, je leur dirais juste que socialement, de faire du porno, c'est plus dur pour une Française que si c'était une Américaine ou une Hongroise ou une Tchèque.
Mm.
Pour elles aussi, ça peut être plus compliqué, mais en France particulièrement, parce qu'elles se font juger. Et même les femmes sont souvent apparemment plus dures envers les actrices que bien des mecs. Mmh. Les mecs, ça peut virer à l'insulte quand ils verront qu'ils la chopperont jamais ou quoi. Mais... Donc une femme, je lui dirais juste, réfléchis bien à c'est quoi ton idée de carrière. Parce que le porno de 10 minutes que t'as fait peut flinguer toute ta vie.
Ouais.
Voilà. Donc, réfléchis. Mmh. Si tu veux tout péter et cartonner, alors vas-y dans ce cas-là. Si c'est pour un essai, franchement, on n'y va pas. Moi, les actrices, je les fais tourner masquées. Je supporte pas les mecs cagoulés. mais une actrice qui vient tourner chez moi, donc c'est dans la thématique de mon nouveau site, mais il y en a beaucoup, j'ai fait avoir un masque. Et soit garderont leur masque sur toutes les scènes où j'ai fait tourner, moi je trouve ça plutôt marrant, je cache les tatouages et machin, pareil pour le mec s'il veut, même souvent si la fille est masquée, bah, toi aussi, parce qu'on vous reconnaîtra autrement, par l'un ou par l'autre.
Mais, ah, tu parles de personnes qui veulent se lancer.
Qui se lancent, qui ne sont pas très connus et qui sont un peu entre deux. Oui, alors je ne vais que sur telle plateforme parce que je ne veux pas être trop connu ou quoi. Je dis, bon, écoute, tourne masqué.
Ouais.
Et voilà, et ça fait mon histoire c'est, ouais. Et on reste dans le fun. Mais pour une actrice qui veut se lancer, elle trouvera toujours à se lancer. Simplement, il faut regarder quand une production vous contacte, elle doit vous envoyer qu'est-ce qu'elle a déjà fait comme autre film, comme ce type de scène. Si c'est une production qui débute, si c'est la première scène, bah, il va falloir vraiment se renseigner autant que possible sur la personne.
Ouais.
Et s'il y a déjà eu plusieurs scènes, et ben vous demandez, envoie-moi une bande-annonce, un machin, que je vois un peu ce que tu fais, puis se renseigner sur la personne, parce que c'est quand même un petit milieu, donc des actrices auront déjà croisé cette personne, et puis diront, ça le fait, ça le fait pas.
Ouais.
Pour un mec, je lui dirais, l'idéal quand même, c'est de commencer en couple, parce qu'en couple, ils peuvent déjà se mettre sur des plateformes, se faire un réseau, sans passer par des grands studios ou des grosses productions qui vont les emmener vers des trucs qui sont pas tellement leurs trucs, quoi. Du genre, une actrice, tu fais de l'anal, tu fais pas d'anal, alors il y en a qui vont être un peu poussés pour qu'elle fasse de l'anal alors que c'est pas son truc. Et un mec, bah, c'est toujours pareil, c'est le côté, bah, il faudrait que tu te piques parce que tu bandes pas assez fort. Donc c'est la souffrance silencieuse des acteurs. Alors, voilà, je n'irai pas donner de nom. Il faut juste que les gars, quand ils m'entendent, voilà, pour moi, vous êtes des victimes, quoi. Donc, c'est pas... Je ne les regarde pas de haut, mais voilà, c'est un truc à côté. Et moi, je n'encouragerais pas les gens à aller là-dessus. Ce n'est pas normal que les productions, les réalisateurs les poussent à ça, quoi.
Complètement.
Voilà, donc les mecs, je leur dirais plutôt, commencez gentiment avec votre copine ou une fuck friend qui est OK. Faites vos trucs, les tubes, mettez-vous bien, faites-vous un réseau. Après, il faut voir, est-ce qu'ils veulent être sur le grand écran, sur les grosses productions ? Dans ce cas-là, forcément, il va y avoir des contraintes, parce qu'il va falloir se mettre au niveau, sans pour autant être dans la picouse, mais il va falloir être solide face à la pression. Ou alors, ils veulent faire du porno, et le côté fun de toutes ces rencontres du porno et tout ça, et ça, c'est différent. C'est quoi l'objectif ?
Oui, c'est ça, en fait.
Voilà,
c'est
l'objectif de carrière. Moi, je me suis pas posé la question parce que c'était, je vais dire, comme un vieux, mais c'était une autre époque, entre guillemets.
Oui, puis ça s'est fait naturellement. Il y avait un truc.
Fait naturellement. J'étais à l'aise avec. J'étais à l'aise avec mon corps. J'étais beau gosse. J'étais jeune. Enfin voilà.
Ouais. Ben écoute, merci beaucoup, Joss, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment très cool. C'était hyper intéressant et je te remercie d'avoir libéré la parole sur plein de sujets. C'est aussi le but de ce podcast. Donc merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe. Et puis quand vous voulez, c'était très très sympa. C'est intéressant de pouvoir parler ouvertement parce qu'en fait, je me suis fait censurer et bannir de pas mal de coins.
Non mais cool. Justement, j'ai imaginé un peu cet épisode comme ça où on se censurait pas dans les mots, donc vraiment merci pour ça. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch. Je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse, ciao. Podcast.